Diego Largo. Je rappelle que vous êtes philosophe, médecin, psychiatre, que vous avez créé la chaire de philosophie des sciences biologiques et médicales à l'Académie des sciences et que vous intitulez ça volontiers « Sciences de la vie et de la santé ». Et que vous êtes vraiment au carrefour de ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire au fond, exactement entre les sciences de la vie et les sciences de l'esprit. Vous avez parlé de l'histoire de la recherche, mais je crois que vous avez plaidé pour la recherche en psychiatrie.
Ah oui.
On aurait pu intituler ça pour la recherche. Au fond, de manière très... avant de passer la parole pour des questions, moi je me dis qu'au fond, vous nous dites, si vous ne voulez pas, tomber dans le piège de la sociatrie, qui est celui qui nous menace aujourd'hui, peut-être à cause de cette défaut de cadre conceptuel solide et approprié, dans une sorte de quiétude raisonnée, et non pas d'inquiétude, de quiétude raisonnée, réinterrogeons l'être bio-psycho-social que nous sommes dans son contexte, et n'ayons pas peur. Enfin, vous dites quelque chose comme ça. Enfin, vous avez commencé par la terreur, mais vous dites n'ayez pas peur de réconcilier je dirais des logiques contradictoires qui ne sont pas nécessairement des désaccords fondamentaux. Enfin, je trouve que c'est intéressant. Je vois déjà que des doigts se lèvent. Je vous propose qu'un micro circule. Jean Auda, c'est ça que tu voulais ? Un peu, le micro ne marche pas.
Oui, donc voilà. Merci beaucoup pour votre intervention, c'était très intéressant. Et moi, par contre, il y a un point, par rapport à ce que dit Candle, par rapport à... Enfin, je suis d'accord que la recherche en psychiatrie, c'est important, parce que c'est ce qui différencie le médecin du charlatan, c'est que c'est l'aspect scientifique, quoi. Mais par contre, le fait de mettre comme critère final pour dire si la psychothérapie est efficace ou pas l'imagerie, ça me paraît absurde dans le sens où c'est pas le but. Enfin, c'est comme si un médicament cardiovasculaire, si on teste le taux de cholestérol qu'il est amélioré, qu'on dit ok, le médicament est efficace, c'est pas ça, ça c'est un critère intermédiaire. L'intérêt c'est de savoir si la personne va faire un infarctus ou pas. Et pour la santé mentale, c'est pareil, l'imagerie cérébrale peut être améliorée et la santé mentale, c'est pas forcément corrélé. Enfin,
alors vous dites que ça marche. Pour l'instant, l'imagerie cérébrale ne vous montrera rien du tout sur le résultat de vos psychothérapies, bien sûr. C'est une espèce de boutade, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, mais je pense que l'idée directrice est à creuser tout de même. J'ai cité en commençant Freud disant « nos hypothèses seront sanctionnées par la biologie ». Et c'est la même idée. Nos hypothèses, si nos traitements sont efficaces, quelque chose nous en reviendra de la biologie. Et de la biologie ou des sciences du comportement. Mais pas seulement les sciences du comportement. Ça pourrait être les sciences du cerveau. C'est pas une idée qu'on peut rejeter a priori, peut-être. Non ? Est-ce que je vous ai répondu ?
Disons que je comprends pas trop comment un dosage biologique pourrait être un indicateur de l'amélioration de la santé mentale d'une personne.
Notre biographie est pas inscrite dans notre cerveau. Si, sûrement, d'une certaine manière. N'oubliez pas que Candel a travaillé sur la mémoire. Et ce que fait Freud a un rapport avec la mémoire. Candel a travaillé sur les deux formes de mémoire, la mémoire immédiate et la mémoire à long terme. ce qu'on emmagasine, qu'on utilise et puis qu'on balaye, et puis ce qu'on enregistre et qu'on retient à long terme. Il y a certainement des signes cérébraux de la mémoire à long terme. Dire qu'on peut déjà lire ça dans le cerveau humain, à ma connaissance, non, pas du tout. Hein? La mémoire à long terme.
Jean Maudin, en fait, pour reprendre justement l'article de Kandel qui était paru en 1999, qui a été retraduit dans l'évolution psychiatrique en 2000, il citait justement des travaux pour donner un exemple de ce que la psychothérapie et, par exemple, la biochimie pouvaient avoir une efficacité comparable avec des résultats en imagerie à propos des troubles obsessionnels compulsifs. Il montrait que l'efficacité des TCC, enfin des troubles des thérapies cognitivo-comportementales, et l'efficacité des antidépresseurs sérotoninergiques à une triple dose étaient à peu près identiques sur les noyaux cérébraux, noyaux gris. Et donc, il y avait au moins cet exemple-là. Mais il me semble que, votre intervention m'a fait penser à quelque chose. Ça me paraît difficile d'envisager comme ça ce débat entre les évolutions successives du monisme et du dualisme, comme si il y avait un retour aujourd'hui nécessaire à une forme de monisme, ou en tout cas à ce que une compréhension qui serait biopsychosociologique nous permettrait enfin une unification. Il me semble que c'est difficile de séparer cette question de questions plus profondément politiques et qui me font penser que, même d'un point de vue phénoménologique, il n'est pas possible de penser la recherche ou l'être humain en termes de monisme ou du dualisme, mais plutôt dans un sens lacanien, en termes d'une sorte de discours tressé, où il y a nécessairement, non pas un ni deux pôles, mais quelque chose qui est toujours tiers, et qui suppose finalement l'intervention d'un renouvellement perpétuel, une sorte d'interaction d'un tissu qui est forcément tressé, et qui implique toujours plusieurs discours à la fois, avec ce que, au fond, dans le thème de la recherche, ce que Latour appelait le front de la recherche. On voit bien qu'il y a un front de la recherche qui évolue selon les périodes politiques ou historiques ou économiques. Ce front de la recherche évolue souvent quand même en fonction de certaines valeurs. Et ça me paraît difficile de penser la recherche comme étant tout à fait séparée des valeurs. Et il me semble que la question des sciences humaines, des sciences de la nature, se pose quand même aussi, à ce moment-là, dans un rapport avec les sciences politiques, par exemple. Non pas qu'elles puissent être séparées, certainement, des sciences humaines, mais il y a quand même une question de front. Ce qu'a dit Mme Paulet au départ, l'idée qu'il puisse y avoir un type qui s'intéresse à des neurolois. Mais dans quel monde vivons-nous? Je veux dire que le front de la recherche se situe tout autant dans un monde qui invente un monstre. Je parle symboliquement. On ne peut pas parler de neurolois. Et c'est quand même très problématique. On ne peut pas, par exemple, passer non plus sur l'apport de Leng. Bien sûr, par rapport à la recherche, on se dit il dénie quelque part quelque chose. Mais c'est peut-être pas tout à fait aussi simple. Leng était certainement un moment nécessaire de l'évolution de la psychiatrie. L'antipsychiatrie était un moment nécessaire de la psychiatrie. Des gens de ma génération sont venus à la psychiatrie parce qu'ils ont lu de l'antipsychiatrie et parce qu'ils ont eu envie, quelque part, d'être proches des patients, d'être dans cet esprit-là, c'est-à-dire dans un esprit très critique qui montrait quand même combien, dans la société, le psychiatre avait une place qu'on lui assignait et que cette place de gardien des fous ou de la folie, d'instituteurs de limites, pouvaient être critiqués ou critiquables. Et penser les choses comme ça suppose quand même une conception, je crois, ternaire du cadre de la recherche, du champ de la recherche. Alors j'avais envie de vous poser la question. J'avais envie de relancer le débat dans cette direction-là.
En fait, le souci de faire de la science intelligemment, humainement, ce souci ne se manifeste plus seulement dans des sciences comme la psychiatrie ou la psychologie, mais on le trouve même en physique, même en chimie à l'heure actuelle. J'ai connu un jeune chercheur qui faisait de la recherche cognitive sur les rats dans un laboratoire et qui m'a raconté qu'en sortant du laboratoire, il voyait ces énormes tas de rats qu'on avait jetés là parce qu'on ne les utilisait plus. Et il a été tellement dégoûté par ça qu'il est devenu éditeur d'un journal. Il a quitté complètement la recherche cognitive. Donc, ce n'est pas un problème particulier à la psychiatrie, c'est cette nécessité de faire de la science intelligemment. Et maintenant, on dit qu'on doit se préoccuper non seulement de respecter l'être humain qu'on a en face de soi, mais l'animal avec lequel on fait de la recherche et la nature. La nature elle-même mérite le respect. On n'a pas le droit, au nom de la recherche, de la détruire. Donc, je pense que ces considérations qu'on appelle maintenant des considérations éthiques devraient être présentes partout. Et, alors, vous avez dit aussi quelque chose sur le dualisme. Personnellement, j'ai beaucoup réfléchi à la nécessité d'être dualiste quand même de temps en temps par méthodologie. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dualiste foncièrement. C'est juste un outil de travail. Merci pour tout ce que vous avez dit.
Monsieur Castel voulait poser une question, peut-être ensuite une dernière question après Monsieur Castel et on passera à...
Oui, alors comme évidemment je suis venu, enfin pas évidemment, mais je vous dis, je suis venu soutenir la thèse exactement inverse de celle d'Anne Fagot-Largeau sur à peu près tous les points qu'elle a mentionnés. Je vais essayer de lui poser une question qui est un peu pour engager une forme de dialogue. J'ai l'impression que le dualisme, c'est une invention démoniste, c'est-à-dire une manière de dire, effectivement, si vous êtes médecin, si vous pensez que la nature est donc une, et puis c'est probablement une propriété conceptuelle de la nature d'être une, dans la nature, vous pouvez construire cette espèce de continuum bio, psychosocial, etc. Mais en fait, est-ce que le fait de récuser totalement, comme par exemple je vais le faire tout à l'heure, la contrainte à l'unification bio-psychosociale ou de l'intégration du neuronal jusqu'au social, c'est une thèse dualiste. C'est juste de maintenir qu'il y a des hétérogénéités entre des ordres de concepts logiques qui ne se mélangent pas, que l'irréductibilité n'est pas un défaut de l'intégration, mais que c'est parfois au contraire la nécessité intrinsèque de l'articulation de niveaux qui ne se mélangeront pas, parce que les propriétés conceptuelles des termes qu'on utilise à chacun des niveaux sont incompatibles les uns avec les autres, et que du coup le grand projet moniste comme ça d'aller dire à la Candle qu'on va intégrer ce qui se passe au niveau du cerveau, ça pourrait même donner des idées sur ce qui se passe au niveau des psychothérapies, parce que c'est dans le cerveau, est un projet qui est, pourrait-on dire, soit entièrement vide, parce que personne ne conteste que ça se passe dans le cerveau, pas plus que ça se passe dans la nature ou dans le monde physique ou au niveau subatomique, n'est-ce pas ? Quand vous pensez autre chose, il se passe certainement quelque chose de différent au niveau des neurones, par exemple. Soit un projet qui est entièrement faux, parce que c'est mélanger des ordres de langage qui sont complètement incroyables. Dans les Principles of Neuroscience, par exemple, plus les éditions se succèdent, par exemple, plus Candle et ses acolytes, si j'ose dire, vont dans le sens d'un réductionnisme radical d'écrasement de tous les niveaux. Ils en viennent même jusqu'à dire, dans la dernière édition des Principles, qu'on va bientôt enfin pouvoir se passer de toutes ces fichues sciences cognitives qui nous inventent des strates de complexité, etc., parce que c'est au niveau moléculaire qu'on pourra détecter les variations qu'il y a dans la vie mentale. Donc je crois qu'à un moment, soit le monisme ne veut... C'est pas le dualisme qui a un problème, c'est le monisme qui a un problème. C'est le monisme qui s'imagine être une position de bon sens, alors qu'en fait, il est en train de provoquer un effondrement de tous ces niveaux les uns sur les autres en détruisant la possibilité, me semble-t-il, d'une recherche qui est articulée niveau par niveau, qui n'est pas du tout fascinée par l'idée qu'il faudrait tout unifier. Vous voyez le type d'objection qu'on pourrait imaginer ?
Unifier, non, mais relier.
relier, alors je ne vais pas monopoliser l'attention, mais relier, mais est-ce que relier, vous iriez jusqu'à dire que dans ce cas, le projet réductionniste classique, hein, d'expliquer des niveaux de complexité par des niveaux de complexité d'un rang inférieur, genre sur le modèle peut-être de, je sais pas moi, la thermodynamique et puis la mécanique statistique par exemple, est-ce qu'un projet de ce genre, c'est un projet qui a un sens en dehors du seul cas où on peut considérer qu'il a réussi, qui est celui de la physique de la chaleur et du mouvement au XIXe siècle transformée en physique statistique, est-ce que c'est un, ou est-ce que ce n'est pas un mythe scientifique qu'on essaie désespérément d'appliquer, comme par exemple comme les gens qui pensent que la génétique mendélienne peut être réduite par la biologie moléculaire, ce qui est très douteux à plein d'égards, et encore plus lorsqu'il s'agit de ce qui se passe au niveau du langage, etc. Est-ce qu'au contraire, ce n'est pas renoncer à relier pour délimiter des zones de recherche extrêmement autonomes, claires et précises, qui permettraient de faire quelque chose ?
Oui, c'est important de distinguer les niveaux. Et des niveaux non réductibles les uns aux autres, d'accord. Mais ça, c'est une position stratégique. Ce n'est pas métaphysique du tout. Hein. De même que, à mon avis, votre dualisme est méthodologique, tout à fait compréhensible. Hein. Mais ça n'implique pas que vous soyez métaphysiquement dualiste. Si.
On n'embête personne, là?
Non, parce que c'est une belle dispute épistémologique. Bon.
Non, je voulais dire...
S'ils s'en vont, on arrête de parler d'ontologie. Mais, mais oui, c'est-à-dire que, à moins que ce soit précisément la métaphysique, ce qu'on appelle la métaphysique, l'analyse des derniers constituants de l'être, justement, ne soit pas du tout le problème qui est en jeu, et n'ait jamais été le problème qui est en jeu dans ce dont on parle. Sauf peut-être à une période historique donnée. Peut-être que c'est que si on parle de ce qu'on essaie de comprendre dans les maladies mentales et dans la psychologie normale, parce qu'on, hein, je pense qu'il faut quand même avoir les deux en même temps, c'est pas, ça n'a jamais été une question d'ontologie. Or, le monisme, c'est toujours une question ontologique.
Alors, je retombe sur terre. Je connais une famille. Dans laquelle la maman a été mise en psychanalyse et les deux enfants autistes, un garçon et une fille, le garçon plus gravement que la fille, le garçon ne parle pas, soignés en psychiatrie avant qu'on ait un diagnostic d'X fragile. La maman est X fragile. Elle a transmis ça à ses deux enfants qui sont isfragiles, d'où l'autisme. C'est quelque chose qui fait un lien entre leur conduite et leur comportement psychique et la génétique, quelque chose de moléculaire. Et ça a été pour cette famille une véritable délivrance de savoir ça. Bon, ça n'est jamais qu'une cause. Partiel d'ailleurs, probablement. On a établi un lien et c'est vraiment une connaissance libératrice, utile. Bon, c'est un lien entre deux choses qui sont à des plans complètement différents, mais c'est un lien.
Alors, oui, on va peut-être. On...